Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information sur Radio Kapi, la pénurie de carburant se poursuit ici à Kinshasa pour la deuxième journée consécutive. Un véritable calvaire pour les Kinois qui sont contraints de dépenser 10 000 francs congolais pour le transport au lieu de 2 000 francs congolais comme de coutume. Conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka à Kwamout dans la province du Maïndombe. Les 500 déplacés reçus à Bandunduville vivant dans des conditions extrêmement difficiles appellent à l'aide. Notre invité, c'est le responsable de la brigade antifraude du Haut-Katanga, Philippe Kibawa, affirme qu'il mène une lutte sans merci contre la fraude économique, financière et minière, ainsi que toutes les formes de tracasserie, et ce malgré beaucoup d'interférences. Madame, messieurs, bonsoir. La pénurie de carburant se poursuit ici à Kinshasa, un véritable calvaire pour des Kinois qui sont contraints de dépenser 10 000 francs congolais ou plus pour les transports au lieu de 2 000 francs comme de coutume suite à la hausse du prix du carburant et du transport en commun. Les habitants de la capitale mettent le gouvernement devant ses responsabilités. Un reportage de Kelly Yoka.
Trouver un taxi à Kinshasa devient un grand luxe en cette période de pénurie de carburant. Parmi les habitués du transport en commun, certains parmi eux ont vu leur budget de transport quotidien exploser dans le vrai sens du mot, allant de 2 000 à plus de 10 000 francs. Quelques usagers de transport en commun rencontrés à l'arrêt vers le rond-point Sosimat dans la commune de Lagombe ont exprimé leur ras-le-bol.
Par jour, j'ai dépensé 3 500 francs d'aller et retour à la maison. Mais aujourd'hui, il arrive que parfois je dépense à 8 500 francs par jour. C'est-à-dire je fais des Kitambo ville, c'est-à-dire Gombe, vers le ministère de l'Environnement. Je rentre, j'ai dépensé 3 500. Mais actuellement, je commence à dépenser 8 500 francs par jour.
Oui, aujourd'hui, là, vraiment, c'est pratiquement un casse-tête. Hein, parce que d'ici, jusque chez moi, vers ma tété là-bas, je dépense actuellement, quand je sors de chez moi pour rentrer, je dépense 10 000 francs. Donc, c'est vraiment assez quand il faut tenir compte de ce que nous avons à la fin de chaque mois. Ça, c'est une responsabilité régalienne des autorités. Ils n'ont qu'à voir comment faire pour stocker le carburant.
Rappelons que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, s'est exprimé à ce sujet le mardi 6 septembre dernier, justifiant cette situation par la baisse sensible de stock en essence et aussi par le fait qu'un plan de contingence a été mis en place afin d'éviter la rupture proprement dite.
Merci Kelly Yoka pour ces précisions. Les membres du syndicat national des médecins poursuivent la grève en RDC. Selon leur secrétaire général, seuls les services d'urgence, la réanimation, les soins intensifs et les banques de sang dans les provinces en proie à l'insécurité sont opérationnels. Dr John Nosenga justifie cette grève des médecins par le non-respect par le gouvernement des engagements pris au mois d'août dernier. Dr John Nosenga a été joint par Pauline Kinja Masilika et Innocent Fazili.
Depuis quelques temps, nous connaissons un mouvement de grève dans tous les hôpitaux des services publics de l'État à travers le pays. Cela se résume par le seul fait que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements contenus dans l'accord du 3 août. Nos revendications sont fondées et légitimes selon le gouvernement. Voilà pourquoi nous nous accrochons et nous voulons que le gouvernement puisse donner une solution durable par rapport à ces problèmes qui ne font que durer. Sur le plan pécuniaire, nous avons réclamé l'application du statut spécifique des médecins. Et là-dessus, le gouvernement s'était engagé à honorer le logement et le transport au courant de cette année budgétaire 2022.
Au cas où vous n'avez pas de gain de cause, est-ce que vous allez continuer avec la grève ou bien quelle sera la prochaine étape?
Je pense que le gouvernement est suffisamment responsable pour comprendre qu'on ne peut pas abandonner la population comme ça sans soins. Aller dans les privés, ça coûte excessivement cher. Tout le monde n'est pas ministre. Donc tout le monde ne va pas aller à l'étranger pour aller se faire soigner.
Oui.
C'est comme ça que nous pensons encore que le gouvernement va redevenir conscient et lucide pour pouvoir honorer ses propres engagements. En fait, ce n'est pas de nouvelles revendications. Nous demandons qu'ils puissent honorer leurs propres engagements.
Allons maintenant au Nord Kivu où la ville de Goma a été arrosée par une pluie abondante ce mercredi matin. La situation est à la fois consécutive au réseau de drainage des eaux pluviales qui est limité dans plusieurs quartiers de la ville et une mauvaise gestion des immondices et déchets plastiques. Plusieurs axes routiers sont remplis de saletés charriées par les eaux de pluie. Innocent Fadili.
Au centre-ville de Goma, des tronçons entiers ont été inondés toute la matinée par les eaux pluviales. À d'autres endroits, les canaux d'assainissement sont constitués des collecteurs à ciel ouvert qui débordent, laissant les immondices, ordures ménagères et déchets plastiques charriés sur les eaux s'éparpiller dans des parcelles. Un spectacle similaire est observé dans l'ouest de la ville. Là aussi, sur l'axe terminus Katindo-ULPGL, par exemple, une monstrueuse flaque d'eau empêche des voitures de traverser. C'est que déplore Marion Gavo, président de la coordination urbaine de la société civile.
Les canalisations d'eau obstruées débordent vers les maisons et sur les chaussées. Et cela se constate dans les entités entre président vers le gouvernorat, mais aussi au niveau de l'institut Bakanja vers Tchengerero. Il y a risque de maladies de mains sales, mais également destruction de l'environnement.
Contacté, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, dit que la situation est bien connue. Timothée Soumaïli précise qu'un devis pour les réseaux d'assainissement pluvial a déjà été élaboré et déposé chez le gouverneur des provinces pour que les fonds nécessaires soient débloqués. En attendant, la pluie est vue comme oiseau de mauvais augure pour la plupart des habitants de la ville de Goma.
Autre nouvelle en plus bref au Maniema, le service de l'environnement basé à Bikenge dans les territoires du Kasongo a saisi une trentaine de perroquets gris entre les mains des grimpeurs. Le coordonnateur provincial intérimaire de l'environnement indique que ces espèces protégées se trouvent en ce moment à l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature Kindu. L'ingénieur Moses Imani condamne cette pratique qui, selon lui, prend de l'ampleur ces jours-ci. Conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka à Mkwamout dans la province de Maïndombe. Les 500 déplacés reçus à Bandunduville vivant dans des conditions extrêmement déplorables appellent à une assistance humanitaire d'urgence. Le commissariat général chargé des affaires humanitaires du Kwilu invite tous les autres déplacés à se faire identifier au plus vite pour recevoir de l'assistance du gouvernement central à Bandunduville, Irène Mboma.
À Bandunduville, certains de ces déplacés de Kwamout sont logés dans des familles d'accueil, d'autres passent nuit dans des églises de la place, d'autres encore au port, et cela dans des conditions très précaires. Parmi eux, figure Evelyne Mutubu, mère de 3 enfants, qui, depuis une semaine, passe nuit au port sable avec ses enfants. Elle lance ses cris de détresse. Je ne connais personne à Bandundu. Je ne sais où aller, car je ne connais même pas une seule avenue. Nous sommes des Congolais et non des étrangers. Que le gouvernement trouve une solution. Voyez, nos enfants manquent des habits, à manger et à boire. Le gouvernement provincial du Kwilu appelle tous les autres déplacés à se faire enregistrer pour être placés dans un site et recevoir l'assistance du gouvernement. C'est ce que dit Jérémy Bikele, directeur de cabinet du ministre provincial des affaires humanitaires.
Une réponse humanitaire fait allusion à un site où ces déplacés pourront être hébergés et aussi une assistance alimentaire et une assistance de non-vivres et vivres.
Notez que la division provinciale des affaires humanitaires du Kwilu a recensé jusque-là 584 déplacés, dont 306 enfants et 278 adultes. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'Ituri où c'est depuis lundi dernier que les FRDC ont lancé une offensive contre des positions rebelles des ADF associées au Mai Mai dans la forêt proche de Biakato dans les territoires de Mambasa. Des sources locales affirment que 3 bastions de ces rebelles sont passés sous le contrôle des FRDC. Les activistes des droits de l'homme et la société civile locale signalent également le déplacement massif des habitants dans plusieurs localités. C'est ce que nous explique à Bounia Ezekiel Mouzalien.
Ces bombardements ont commencé lundi dans plusieurs localités situées sur l'axe Luna Samboko au sud du territoire d'Irumu, à la limite avec le territoire voisin de Mambasa. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus par la population des Mamuo, Ndombilo jusqu'à la Lia ainsi que de la forêt de Mitume. Selon des sources locales, l'un des plus grands bastions de l'ennemi à Passelekou est désormais occupé par les FARDC. Des activistes des droits de l'homme et ONG locales ajoutent que des autres bastions de l'ennemi sont passés sous contrôle des forces loyalistes à l'ouest de Biakato et Luemba. Selon les mêmes sources, l'armée a progressé encore dans la région région de Hila pour chasser ces rebelles dans la forêt où ils planifient des attaques contre la population. Ces rebelles des ADF et leurs alliés Maïmaï qui sont en fuite ont pris la direction de Lissoma après avoir traversé la rivière Ituri. Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri indique que le bilan n'est pas encore disponible car les opérations sont en cours. L'administrateur adjoint du territoire de Mambasa demande aux jeunes qui ont intégré ces groupes armés de quitter la brousse pour rejoindre le processus de paix en cours. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, 3 blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan des affrontements survenus lundi dernier au village de Maka entre des éleveurs étrangers Mbororo et les cultivateurs locaux. L'incident a eu lieu dans le groupement de Bira, territoire de Yakoma, dans la province voisine du Nord-Ubangi. L'administration locale qui gère ce dossier redoute la flambée des violences dans son entité. Elle exige le refoulement de ses bergers estimés à plus de 160 personnes avec leurs bêtes. Et dans le Sankourou, 4 quartiers de la cité portuaire de Benadibélé, dans les territoires décollés, sont éclairés depuis le début de la semaine grâce à l'intervention d'un élu provincial. Il s'agit de Francis Ilunga wa Ilunga qui a doté la cité d'un générateur de 100 kVA. Les habitants s'en réjouissent. C'est ce que nous explique à Mbujimai Esther Ndalafina.
Le quartier Bac, Malela, Kabondo et le centre commercial de la cité portuaire de Benadibélé sont éclairés à partir d'un générateur de 100 kVA disponibilisé par un élu provincial. Une équipe d'ingénieurs est à pied d'œuvre. Elle a procédé depuis la semaine dernière à l'installation de poteaux et de câbles électriques pour l'éclairage public. Explication de l'ingénieur Mbaka, superviseur des travaux.
Ce générateur de 100 kVA aura éclairé toute la cité portuaire de Benadibélé. Nous assurons que ces travaux nous prendront plus ou moins 10 jours pour le finissage.
Ce geste réjouit les habitants de cette cité. Gabriel Bombé, habitant de Benadibélé.
C'est la première fois que la population peut voir
Signalons que les autorités locales ne se sont pas intéressées parce qu'elles n'ont pas été impliquées dans ce projet. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, a été nommé ce mercredi matin Premier ministre sur proposition du président de la République qui avait évoqué la semaine dernière une tentative de coup d'État, annonce faite aujourd'hui par la télévision nationale RTNB. Il est impossible pour les pays occidentaux d'isoler la Russie en dépit de sanctions contre Moscou qui représentent une menace pour le monde entier, a déclaré aujourd'hui mercredi le président russe Vladimir Poutine lors d'un forum économique tourné vers l'Asie.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable de la brigade antifraude de la province du Haut-Katanga, Philippe Kibawa, affirme que son service lutte contre la fraude économique, financière et minière, ainsi que toutes les formes de tracasserie. En dépit de beaucoup d'interférences, il est interrogé par Jean Ngandou.
Philippe Kibawa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean.
C'est quoi, c'est la brigade antifraude?
La brigade antifraude, c'est une direction œuvrant au sein du gouvernement provincial qui est sous tutelle directement du gouverneur de la province et d'une façon administrative dépendant du ministère de l'économie et du commerce. En créant cette structure, l'autorité provinciale a voulu approcher le fonctionnement de fiscalité et partant des redevances et des droits dus à la province. La brigade antifraude est en train de lutter contre toute forme de fraude qui sont à caractère national et provincial. Donc les fraudes économiques, les fraudes financières, les fraudes dans les secteurs miniers, les fraudes dans les secteurs hydrocarbures. Nous luttons aussi contre les tracasseries d'autres formes de services qui y sont affrontés.
On trouve également cette direction à différents postes de péage. Pourquoi donc?
Nous travaillons dans des checkpoints ou différents postes de péage. Nous sommes au niveau poste de Kaoumba. C'est l'entonnoir qui reçoit tout ce qui vient de Mokambo et Sakania. Nous sommes au niveau de Kanyaka. Kanyaka, c'est un déversoir que ça prend et de Sakania et de Kasumbalesa. Nous sommes aussi à Kimbembe. Nous sommes à côté de Kasangiri. Nous sommes à Kipushi au niveau du péage. Nous avons un bureau d'antenne de Kassi qui gère l'Ikassi Kambov, au niveau de Luambo, on est là, au niveau de Boulouo, au niveau de Luisha, et Axe Kambov sur TP. Donc, récemment, on a ouvert une antenne de Pueto, parce que vous savez, il y a beaucoup de fraudes là-bas, avec tout le bois rouge, et beaucoup d'exploitation artisanale illégale dans les secteurs au niveau de Pueto.
Quelles sont les grandes saisies que vous avez déjà opérées, depuis que vous êtes opérationnel, qui pourraient contribuer, tant que faire se peut, à lutter contre la grande fraude telle que nous la vivons dans la province?
Bientôt 9 mois que nous œuvrons, que notre contribution est palpable. Dernièrement, avec la réalisation des recettes au niveau de l'UFIDA le mois de juillet, nous avons été même primés par ça et l'autorité provinciale nous encourage beaucoup. Que nous avons déjà arrêté plus de cargaisons, surtout à ceux-là qui ne respectent pas la douane. La sous-évaluation ou la dénaturation, nous arrêtons et nous canalisons vers la douane pour le redressement. Et aussi, au niveau de la province, il y a les bons de passage, entre autres les péages, des rachkats. Dernièrement, nous avons eu à arrêter beaucoup et nous continuons à arrêter tous ceux qui ne se conforment pas à cet exercice fiscal.
Parmi toutes ces différentes fraudes-là, quelle est celle qui est plus prépondérante?
La fraude douanière, là, nous voyons, il y a tout le temps le coulage et les contrebandes, surtout avec la porosité de nos frontières, avec le phénomène Binaga. La fraude douanière connaît un pic dans son déroulement, suivi de la fraude minière, surtout dans le secteur de l'exploitation artisanale. Là, nous rencontrons beaucoup de déboires et nous sommes là pour essayer de redresser.
Et lorsque vous mettez la main sur un contrevenant, vous l'amenez devant la justice ou vous l'amenez régulariser ce qu'il n'a pas pu faire?
Nous sommes à deux temps. Le premier temps consiste d'abord à ramener tout ce qui est à caractère douanier. Nous le ramenons par un courrier au niveau de la douane pour le redressement. Et il y a d'autres que nous appelons des pénalités à titre dissuasif. Par exemple, ici, au niveau de la brigade antifraude, nous avons un ordonnateur de la DRH4. Quand les OPJ qui sont ici, au niveau du contentieux, ils traitent que la sujettitelle n'a pas respecté le péage, n'a pas respecté quoi que ce soit, et ils paient les pénalités. Au niveau de la direction des recettes du Haut-Katanga, il y a une très bonne traçabilité quant à ce, je peux vous le rassurer.
Avant de terminer, est-ce qu'il vous arrive également de mettre la main sur le gros poisson? Parce que nous savons, notamment dans le domaine minier, où il y a beaucoup d'interférences politiques et autres, est-ce que vous avez les coudées franches pour également arrêter ce qui gangrène ce domaine-là?
Monsieur Jean, ce n'était pas ce que tu appelles gros poisson. Mais je peux tout simplement te dire que notre travail est très complexe, il y a beaucoup d'interférences, mais nous essayons avec beaucoup de souplesse, beaucoup de tact, tant soit peu, d'être à mesure de répondre vraiment donc à l'efficacité de notre service. Donc je ne veux pas c'est les gros poissons comme vous l'avez dit, moi je vois aussi le social. Il y a le peu, la classe sociale démunie, qui est aussi, qui pratique des contrebandes. Donc ce n'est pas seulement des gros poissons, et nous essayons de mettre beaucoup une grande pédagogie là-dedans, d'abord des sensibilisations, et les interférences n'y manquent pas, mais et ce côté-là, on ne se plaint pas parce que nous avons l'accompagnement de son excellence, monsieur le gouverneur, qui nous a déjà donné ses attributions et nous y en sortons correctement. Je peux vous l'assurer, monsieur Jean.
Philippe Kibawa, je vous remercie.
Merci Jean, je suis très honoré.
C'était l'invité de Radio Okapi, le responsable de la brigade antifraude de la province du Haut-Katanga. Philippe Kibawa affirme que son service lutte contre la fraude économique, la fraude financière et minière, ainsi que toutes les formes de tracasserie. Un travail qu'il réalise en dépit de beaucoup d'interférences. Il a été interviewé à Lubumbashi par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tikota Mwambui et Richard Junior Kamunga qui m'ont accompagné.